Frères et sœurs en Christ, cette parabole que nous venons d'entendre et que nous avons déjà entendue des dizaines et des dizaines de fois, cette parabole contient toute l'humanité de Dieu. Après avoir entendu le grand écrivain Dostoïevski, alors qu'il était mourant, a dit à ses enfants: n'oubliez jamais ce que vous venez d'entendre. Effectivement, hier, lorsque Jésus l'a raconté, elle a certainement claqué à la conscience de ceux qui l'écoutaient et l'entendaient. Et cette parabole devrait aujourd'hui encore claquer à notre conscience. Mais pour ce faire, faut-il nous démarquer des malentendus? Et à trop vouloir tirer de cette parabole une quelconque morale, on l'a réduit, entre autres, à la seule idée que l'enfant cadet est coupable d'avoir dissipé et gaspillé son héritage sans la plus élémentaire prudence de comptabilité. En un mot, d'avoir été dépensier, dissipateur, ou comme nous l'avons retenu dans un langage policé, d'avoir été littéralement prodigue. Et voilà qu'en un simple petit mot et un petit titre, la parabole de Jésus est dès lors orientée moralement, développant en nous une asocialité spirituelle. C'est ainsi que nous en arrivons à mettre en exergue notre pire travers, qui est celui de devenir à l'égal des pharisiens. À ceci près, que les pharisiens du temps de Jésus avaient, eux, le mérite de se laisser interpeller par cette parabole. Au moins, eux, ils comprenaient qu'elle mettait en cause leur personne, leurs idées et leurs œuvres. À propos des paraboles, l'écrivain Paul Valéry disait: tout ce que tu dis parle de toi. Et singulièrement, ça parle de toi lorsque tu parles des autres. Autrement dit, dans les paraboles, Jésus parle le plus profondément de lui-même. Dans toutes les paraboles, Jésus, de façon authentique, nous livre là, indirectement, son cœur. Comme il le fait, d'ailleurs, dans sa façon de réagir dans telle situation, tel événement, tel miracle. Parce que sa vie, la vie même de Jésus, est une parabole, une immense parabole. Et en ce temps de carême, il est difficile de ne pas voir, par exemple, dans l'obole de la veuve, une sorte de parabole de ce qui va advenir bientôt à Jésus dans ce temple et plus tard au Golgotha. Lui aussi, il devra donner, non pas de son superflu, mais de son indigence. Il devra donner tout ce qu'il a pour vivre jusqu'à sa vie même. Et cette anecdote en devient parabole de la Passion, parabole de Jésus sur le don du Fils de l'homme pour la multitude, et parabole même d'une vie pleine d'humanité. Réalisons qu'à travers toute son existence, Jésus nous montre qu'il est la parabole vivante de l'éternelle divinité. Et même dans quelques jours, Jésus va devenir sur la croix la parabole sanglante de cette passion mystérieuse qui brûle pour nous dans le cœur même de Dieu. Voilà pourquoi nous serions bien inspirés de réentendre non seulement l'évangile du jour, non seulement la parabole que nous avons entendue, mais l'ensemble du Nouveau Testament avec le fait que Jésus, le Christ vivant, celui qui s'est relevé de toutes les finitudes, Jésus est bien le Fils prodigue du Père. Du Père. Dans l'Évangile nous dit que cet homme avait deux fils. Et sans que nous y soyons attentifs, cette parole habite notre mémoire et nos écritures. Effectivement, la généalogie que Luc nous transmet au début de son évangile ne craint pas de nous faire remonter jusqu'à Adam, qualifié lui aussi très précisément de fils de Dieu. Adam, qui lui aussi avait deux fils, Caïn et Abel, la victime innocente, dont le sang crie vers Dieu jusqu'à ce que Jésus le mène au sien pour le salut de la multitude. Et le père de la foi, le père de l'éternelle promesse, Abraham, lui aussi avait deux fils. L'un de l'esclave, Ismaël, et l'autre de la femme libre, Isaac, qui aura la bénédiction de Dieu pour réaliser la promesse du peuple multiplié comme les étoiles du ciel. Plus tard encore, nous allons connaître le même choix de l'éternel avec les deux fils d'Isaac, Ésaü, qui va devoir remettre son droit d'aînesse à Jacob, celui qui est béni. Et voilà que sans y prendre garde, toute la tradition et toutes les écritures nous interpellent au point que lorsque Jésus commence son récit avec cet homme qui a deux fils, nous devrions déjà savoir, nous qui nous vantons de connaître les Écritures, nous devrions déjà savoir quelle est la préférence du Père. Ce second fils porte donc en lui ce que la tradition lui confère, c'est-à-dire d'abord une destinée de victime et obéissante avec Abel, puis une vocation à la liberté avec Isaac, enfin une plénitude de bénédiction avec Jacob. Et l'inouï dans cette histoire, c'est que ce fils, qui a tout, il a tout, qui a absolument tout en partage, il réclame sa part. Donne-moi la part qui me revient. Arrêtons de moraliser ce qui n'a aucune raison de l'être. Mais demandons-nous plutôt si ce partage n'apporte pas une lumière sur les relations entre le Père et le Fils d'une part, mais aussi une lumière sur les rapports de Dieu avec l'autre, le Fils aîné. Le Fils aîné, cet autre Fils, qui n'est rien d'autre que nous. Nous, le peuple dit élu. Ce peuple qui a reçu une promesse, c'est-à-dire nous le peuple des bons croyants, ce peuple comme le dit explicitement l'Évangile, dont font partie aussi les pharisiens et les scribes, ces fidèles de l'Écriture qui persiflent d'une médisante morale, disant en parlant de Jésus, celui-ci reçoit des pécheurs, des gens de mauvaise vie, et partage avec eux. Répétons-le, les pharisiens sont des gens pieux qui mettent en pratique les Écritures. Et nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, du haut de notre foi chrétienne, mépriser leur piété. Par contre, comme eux, nous avons beaucoup de mal à comprendre que cette part demandée par le Fils est comme la signature de cette liberté spirituelle à laquelle Dieu, à laquelle Dieu nous appelle dans son incommensurable amour, à laquelle il nous invite, liberté nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre qu'il nous donne, et qu'il nous donne un exemple à travers Jésus, la parole incarnée. Autrement dit, comprenons bien que le prix du dévoilement de l'être profond de Jésus, c'est bien son enfouissement dans le monde de tous les pécheurs, de tous les gens de mauvaise vie, là où il va littéralement distribuer toute sa part avec les bas-fonds de l'humanité, afin que s'accomplissent l'amour et la justice de Dieu. Telle est la raison pour laquelle, effectivement, il reçoit des gens de mauvaise vie et partage avec eux sans compter. Il partage de façon prodigue. Et même plus, parce que nous voyons le scandale grandir, avec, entre autres, l'accusation gratuite du frère aîné, c'est-à-dire du peuple qui se veut élu. Le frère aîné, lui qui ne sort jamais de ses champs, de sa paroisse, qui ne semble jamais rien avoir vu, n'en colporte pas moins le ragot que Jésus fréquente ses filles qui misérablement sont appelées filles de joie. Ce qui est difficile, convenons-en, à avaler pour les bons esprits, qui n'hésitent pas à reprocher à celui qui communie avec tous les exclus et tous les délaissés, de prostituer ainsi la réputation de Dieu lui-même. Comprenant alors combien, après toutes les routes parcourues, combien après tous les sermons sur la montagne comme dans la plaine, combien toutes les guérisons, tous les signes de la venue du royaume, combien tous les rejets de la part des foules versatiles, combien Jésus, le Fils prodigue, celui qui a distribué sans compter, éprouve déjà la déréliction de la croix. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il puisse se retourner vers son Père et dire « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. » Réalisons bien que le Fils, en allant trouver le Père, concentre derrière lui, en lui et avec lui, tous les péchés, travers et déviances de la terre, tous les pécheurs et impurs du monde qui se cachent là, comme dans un immense manteau. Et c'est bien parce que Jésus se confond avec tout cela, mais qu'il se confond aussi avec ses bourreaux. C'est bien parce qu'il lit son sort à tous les larrons, canailles et déviants du monde qu'il avoue à son Père qu'il n'est plus digne d'être considéré comme son fils. En revêtant ainsi la dérision du monde entier, Jésus parle à la première personne pour qu'il soit bien clair qu'il n'est pas un quelconque ambassadeur extérieur, mais bien le médiateur incarné de la parole de Dieu, enfoui dans toute la condition humaine avec ce qu'elle a de pire. Alors il en appelle dans les ténèbres à une lumière. Il en appelle dans les ténèbres et dans le désespoir d'une humanité perdue. Il en appelle à l'assurance d'un pardon, et d'un pardon universel, c'est-à-dire un pardon pour chacun. Réalisons que la nuit de la croix qui s'annonce, c'est bien la nuit du Fils qui se sent orphelin, au point de crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et en se tournant et en se retournant dans le sein du Père comme dans le lieu de son refuge, ou mieux encore, le lieu de sa plus intime habitation, le Fils tombe comme un fruit mûr dans la miséricorde du Père. Voilà bien la raison pour laquelle immédiatement on change ses pauvres habits pour ceux de la noce qui sont bien les noces éternelles de Dieu et de toute l'humanité. Autrement dit, il n'y a plus ni vieux vêtements, ni vieille outre, ni poignard au côté. Il ne reste plus que la lumière éclatante de la transfiguration. Il ne reste plus que le vin nouveau de la résurrection et la béatitude de la paix. Autrement dit, l'aventure du prodigue est fondamentalement la face lumineuse du mystère de la croix qui annonce la gloire de Pâques. Notre parabole contient en elle tout le chemin accompli par Jésus au milieu des êtres humains, jusqu'à y compris le bois du supplice et de l'infamie, ainsi que l'apparition au jardin du ressuscité. L'Évangile nous le dit et même nous le redit. Le Fils était perdu et il est retrouvé. Le Fils était mort et il est revenu à la vie. Autrement dit, l'abandon de Gethsémané, comme l'abandon de la croix, sont définitivement traversés par Jésus, mais traversés pour nous tous. Voilà bien la nouvelle la plus extraordinaire de notre parabole qui est introduite par ce que nous pourrions appeler l'impératif catégorique du salut. L'impératif catégorique du salut que résume l'expression « ne fallait-il pas ?» Ne fallait-il pas festoyer et se réjouir ? Je vois des têtes sombres. Non, ne fallait-il pas festoyer et se réjouir ? Jésus nous explique là que Dieu est un père qui respecte totalement la liberté de ses fils, de ses filles. Il respecte notre liberté. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu, notre Père, n'accepte pas. Qu'une seule chose qu'il n'accepte pas, c'est que qu'un de ses enfants ne soit plus son enfant. Il faudrait retrouver, d'ailleurs, tout le suc de la parabole telle qu'elle est racontée par Jésus. C'est impensable, en effet, pour un oriental comme Jésus, de voir un homme respectable. Les hommes respectables sont souvent âgés. Courir après ses enfants. Et c'est pourtant ce qu'il fait, là, dans notre parabole. Et en plus, cet homme, il donne tout, il donne même au-delà et par-dessus tout, puisqu'au final, il pardonne. Voilà ce qu'il nous est demandé d'entendre et de comprendre sur qui est Dieu. C'est ça qui doit claquer à notre conscience. Dieu est un Dieu de miséricorde, il est un Dieu de pardon. Et par ce pardon fondamental et premier, chacun de nous se voit définitivement réconcilié à la fois avec notre Père, mais aussi avec lui-même. Cette réconciliation, Dieu, notre Père, prodigue lui aussi, il la distribue sans compter, par sa parole, en Christ. Et il a distribué sans compter à tous ses enfants, c'est-à-dire à chacun de nous. Il nous l'offre pour que nous puissions sortir de nos enfermements et de nos idolâtries, afin que chacun ait la possibilité, avec la part qui lui revient de notre chemin, que chacun ait la possibilité de notre chemin ouvert sur une vraie relation au Père miséricordieux, relation qui passe, et cela il faut le préciser, surtout en ces temps, par la relation à tous les autres, et pas seulement à quelques-uns qui pourraient, en fonction des circonstances ponctuelles, être mis en exergue par l'actualité et les désordres du monde. Il faut bien faire la fête et se réjouir, dit le Père. La fête, en définitive, n'est pas tout entière dans le retour de l'enfant, ni dans l'acte de repentance. La fête, fondamentalement, est dans le Père. La fête est fondamentalement dans le Père, qui est le seul qui ne laisse jamais se perdre, ni notre part souffrante, ni notre part manquante. Et c'est bien de cette bonne nouvelle dont il faut sans cesse et toujours se réjouir. Amen.
Amen.